Chapitre 8. Les âmes sœurs. La lumière matinale du soleil pénétrant à travers les rideaux mal fermés d'une fenêtre, un lit de bois grossier à larges colonnes contournées touchant au plafond, d'un côté l'aimable visage de ma mère et de l'autre un gentleman âgé dont je n'avais pour l'instant aucun souvenir, tels furent les objets qui s'offrirent à ma vue lorsque je revins, avec ma connaissance, dans le monde où nous vivons. « Voyez, docteur, voyez, il a enfin repris ses sens. »« Ouvrez la bouche, monsieur, et prenez une goutte de ceci. » Ma mère se réjouissait près de moi d'un côté du lit, et le gentleman inconnu, qu'elle appelait docteur, m'offrait, de l'autre, une cuillerée de whisky et d'eau. Il appelait ce mélange l'élixir de vie, et il me pria de remarquer, avec un fort accent écossais, qu'il le goûtait lui-même pour me prouver qu'il parlait sérieusement. Le stimulant produisit son effet salutaire. Ma tête devint moins vertigineuse et mon esprit plus clair. Je pus parler raisonnablement à ma mère et me rappeler vaguement les principaux incidents de la soirée précédente. Une ou deux minutes après, l'image de la personne qui avait été le centre de ces incidents ressuscita dans ma mémoire. J'essayai de me lever sur mon lit, je demandai impatiemment « Où est-elle ?» Le docteur me présenta une nouvelle cuillerée de l'élixir de vie et me répéta gravement ses premières paroles. « Ouvrez la bouche, monsieur, et prenez une goutte de ceci. » Je persistai à répéter ma question. « Où est-elle ?» Le docteur persista à répéter sa formule. « Prenez une goutte de ceci. » J'étais trop faible pour engager une discussion, j'obéis. Mon conseil médical fit un signe de tête à ma mère par-dessus le lit et lui dit « Maintenant, il ira bien. » Ma mère eut pitié de moi et me tira d'inquiétude par ces simples mots « La dame est tout à fait rétablie, Georges, grâce au docteur ici présent. » Je regardai mon collègue avec un nouvel intérêt. Il devenait la source légitime des informations que je brûlais d'obtenir. « Comment l'avez-vous sauvée ?» lui demandai-je. « Où est-elle maintenant ?» Le docteur étendit la main pour me faire signe de m'arrêter. « Tout ira bien, monsieur, si nous procédons méthodiquement, » commença-t-il d'un ton très positif. « Vous saurez que chaque fois que vous ouvrirez la bouche, ce sera pour prendre une goutte de ceci et non pour parler. Je vous raconterai en son temps et la bonne dame, votre mère, vous racontera tout ce qu'il vous importe de connaître. » Comme il m'a été donné d'arriver le premier sur ce que vous pourriez appeler le lieu de l'action, il m'appartient régulièrement de parler le premier. Vous me permettrez d'abord de mélanger encore un peu de cet élixir de vie, et puis, comme dit le poète, je vous débiterai mon récit, simplement et sans fard. Il prononça ces paroles avec un fort accent écossais, mais dans l'idiome anglais le plus choisi que j'eusse jamais entendu. Comme c'était un homme à la tête dure, aux épaules carrées et opiniâtrement têtues, il était clairement inutile de discuter avec lui. Je me tournai vers l'aimable visage de ma mère pour y puiser quelque encouragement et je laissai mon docteur marcher à sa guise. « Je m'appelle Maglou, » continua-t-il. « J'ai eu l'honneur de vous rendre visite là-bas, dans votre maison, lorsque vous êtes venu habiter le voisinage. » Vous ne vous souvenez pas de moi en ce moment, ce qui est assez naturel dans l'état vacillant de votre esprit, dû, vous le comprendrez, en votre qualité de médecin, à une énorme perte de sang. Ici, la patience m'échappa. Ne vous occupez pas de moi, m'écriai-je, parlez-moi de la dame. Vous avez ouvert la bouche, monsieur, me dit sévèrement monsieur Maglou. Vous connaissez la punition, prenez une goutte de ceci. « Je vous ai prévenu que nous procéderions méthodiquement, » continua-t-il après m'avoir forcé à subir la punition. « Chaque chose à sa place, monsieur Germaine, chaque chose à sa place. Je vous parlais de votre condition corporelle. Eh bien, monsieur, comment ai-je découvert votre condition corporelle ? Providentiellement pour vous, je revenais hier soir chez moi par le chemin bas qui longe les bords de la rivière. » Et en approchant de cette auberge, qu'ils appellent un hôtel, mais qui n'est qu'une auberge, j'entendis, à un demi-mille de distance, les cris de l'aubergiste. C'est une assez brave femme, vous savez, en temps ordinaire, mais c'est une pauvre créature en cas d'accident. Tenez-vous tranquille, j'y arrive maintenant. Bien. J'y entrai, pour voir si l'écrit se rapportait à quelque sujet nécessitant les soins d'un médecin, et je vous trouvais, vous et la dame inconnue, dans une situation que je pourrais franchement qualifier de quelque peu répréhensible au point de vue des convenances. Chut, chut, je plaisante, vous étiez tous deux dans un état d'évanouissement mortel. Après avoir écouté ce que l'aubergiste avait à me dire, et après avoir de mon mieux dégagé la vérité des attaques de nerfs qui accompagnaient le récit de cette femme, je me trouvais placé entre deux dilemmes. Les lois de la galanterie, vous le comprenez, m'indiquaient la dame comme la première à soigner, tandis que les lois de l'humanité, à la vue de votre sang qui continuait à couler, me poussaient non moins impérativement vers vous. Je ne suis plus un jeune homme, je laissais la dame attendre son tour. Sur ma parole, ce n'était pas une petite affaire, monsieur Germaine, que de traiter votre cas et de vous faire porter ici, loin des allants et venants. Il ne faut pas jouer, monsieur, avec votre ancienne blessure. Je vous conseille de veiller à ce qu'elle ne se rouvre plus. La première fois que vous irez vous promener le soir et que vous verrez une dame dans l'eau, vous ferez bien, dans l'intérêt de votre propre santé, de l'y laisser. Qu'est-ce que je vois? Vous ouvrez encore la bouche? Avez-vous déjà besoin d'une nouvelle goutte ? Il a besoin d'en apprendre davantage sur la dame, dit ma mère en se faisant l'interprète de mes désirs. Oh, la dame, reprit M. Magloux, de l'air d'un homme qui ne trouve pas grand plaisir dans le sujet qu'il a à traiter. Il n'y a pas grand-chose à dire que je sache de la dame. C'est une belle femme, assurément. Si vous lui enleviez la chair des os, vous trouveriez dessous un squelette splendide. Car, sachez-le bien, il n'y a pas de femme bien bâtie sans une bonne charpente osseuse pour servir de base à sa construction. Je n'ai guère bonne opinion de cette dame, moralement parlant, vous comprenez. S'il m'est permis de le dire en votre présence, madame, il doit y avoir un homme caché derrière la scène dramatique qu'elle a jouée sur le pont. Toutefois, comme je ne suis pas cet homme, cela ne me regarde pas. Ce qui me regardait, c'était de remettre en mouvement le mécanisme vital de la dame. Et Dieu sait qu'elle a été dure à traiter. C'était un cas encore plus rebelle que le vôtre, monsieur. Dans toute ma pratique, je n'ai jamais rencontré deux individus moins disposés que vous à revenir en ce monde et à ses peines. Et lorsque j'eus enfin terminé ma besogne, lorsque j'étais prête à défaillir moi-même de fatigue et d'ennui, devinez, je vous permets de parler cette fois, devinez quelles furent les premières paroles que m'adressa la dame lorsqu'elle fut revenue à elle. J'étais trop agitée pour pouvoir exercer ma perspicacité. « J'y renonce, » dis-je avec impatience. « Et vous faites bien d'y renoncer, » remarqua M. Magloux. « Les premiers mots, monsieur, qu'elle adressa à l'homme qui venait de la tirer des griffes de la mort, furent ceux-ci. « Comment avez-vous osé vous mêler de mes affaires? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir ?» Voici ses propres paroles, j'en jure sur ma Bible. Je me sentis tellement outré que je lui rendis, comme on dit, la monnaie de sa pièce. La rivière est là, madame, recommencez, et je vous promets que, pour ma part, je ne vous tendrai pas la main pour vous secourir. Elle me regarda d'un œil perçant. Est-ce vous qui m'avez tiré de la rivière ? Dit-elle. Dieu m'en garde, lui répondis-je. Je ne suis que le docteur qui a été assez sot pour s'occuper de vous après. Elle se tourna vers l'aubergiste. « Qui m'a tiré de la rivière ? » demanda-t-elle. L'aubergiste le lui dit en vous nommant. « Germaine, se dit à elle-même l'inconnue, je ne connais personne du nom de Germaine. Je me demande si c'est l'homme qui m'a parlé sur le pont. »« Oui, dit l'aubergiste, monsieur Germaine m'a dit vous avoir rencontré sur le pont. » À ces paroles, la dame réfléchit quelques instants et demanda ensuite si elle pourrait voir monsieur Germaine. « Quel qu'il soit, dit-elle, il a risqué sa vie pour me sauver et je dois l'en remercier. »« Vous ne pouvez le remercier ce soir, lui dis-je. Je l'ai fait porter là-haut, entre la vie et la mort, et j'ai envoyé chercher sa mère. Attendez à demain. » Elle se tourna vers moi d'un air à demi effrayé, à demi fâché. « Je ne puis attendre, dit-elle. Vous ne savez pas ce que vous avez tous fait en me ramenant à la vie. Il faut que je quitte le pays. » « Il faut que je sois hors du Perthshire demain. À quelle heure passe ici la première voiture pour le Sud ?» N'ayant rien à faire avec la première voiture pour le Sud, je la renvoyai aux gens de l'auberge. Maintenant que j'en avais fini avec la dame, mon affaire était de monter dans cette chambre pour voir comment vous alliez. Vous alliez aussi bien que je pouvais le désirer, et votre bonne mère était à votre chevet. Je rentrai donc chez moi pour voir les malades ordinaires qui pouvaient m'y attendre. Quand je revins ce matin, la sotte aubergiste avait une nouvelle histoire à me raconter. « Elle est partie, » me dit-elle. « Qui partie ?» lui dis-je. « La dame, » me répondit-elle. « Elle est partie ce matin par la première voiture. »« Vous n'entendez pas me dire qu'elle a quitté la maison ?» m'écriai-je. « Mais si, parfaitement, » dit le docteur, aussi positivement que jamais. « Demandez à madame votre mère ici présente et elle vous le certifiera à votre satisfaction. J'ai quelques autres malades à voir et je vais faire mes visites. Vous ne verrez plus la dame et c'est tant mieux, je crois. Je reviendrai dans 2 heures et si je ne vous trouve pas plus mal, je verrai à vous faire transporter de cette maison étrangère dans le bon lit qui vous attend chez vous. Ne le laissez pas parler, madame, ne le laissez pas parler. » En prononçant ces paroles, M. Magloo nous laissa seuls. « Est-ce vrai, » dis-je à ma mère, « a-t-elle quitté l'auberge sans attendre pour me voir ?»« Personne n'a pu l'en empêcher, Georges, » me répondit ma mère. « La dame a quitté ce matin l'auberge par la voiture d'Édimbourg. » Je me sentis amèrement désappointée. Oui, amèrement est le mot, bien qu'elle fût une étrangère pour moi. « L'avez-vous vue vous-même » demandai-je. « Je l'ai vue quelques minutes, mon cher, pendant que je montais dans votre chambre. »« Que vous a-t-elle dit ?»« Elle m'a prié de vous faire ses excuses. Elle m'a dit, « Dites à M. Germaine que ma situation est terrible et qu'aucune créature humaine ne peut me secourir. Il faut que je parte. Mon ancienne existence est tout autant finie que si votre fils m'avait laissé noyer dans la rivière. Il faut que je me fasse une nouvelle existence et dans d'autres lieux. » « Priez M. Germaine de me pardonner si je pars sans le remercier. Je n'ose pas attendre. On pourrait me suivre et me trouver. Il y a une personne que je suis résolue à ne jamais revoir, jamais, jamais, jamais. Adieu et tâchez de me pardonner. » Elle cacha son visage dans ses mains et se tut. J'essayai de gagner sa confiance, mais ce n'était pas possible. Je fus obligée de la quitter. « Il y a quelque malheur terrible, Georges, dans la vie de cette misérable femme. Et c'est une créature si intéressante. Il était impossible de n'en pas avoir pitié, qu'elle le mérite ou non. Tout en elle est en misère, mon cher. Elle parle anglais sans le moindre accent étranger, et pourtant, elle porte un nom étranger. Vous a-t-elle dit son nom ? Non, et je n'ai pas osé le lui demander. » Mais l'aubergiste, qui n'est pas une femme bien scrupuleuse, m'a dit avoir examiné le linge de la pauvre créature pendant qu'il séchait près du feu. Le nom marqué dessus était Van Brandt. Van Brandt, répétai-je, ce nom somme comme du hollandais, et cependant, vous me dites qu'elle parle comme une anglaise. Peut-être est-elle née en Angleterre ? Ou peut-être est-elle mariée, me suggéra ma mère, et Van Brandt serait le nom de son mari. La pensée que l'inconnu pût être marié avait pour moi quelque chose de révoltant. J'eusse désiré que ma mère n'eût point fait cette supposition. Je refusais d'y croire et je persistais dans mon opinion personnelle que l'étrangère était célibataire. Comme telle, je pouvais m'accorder le bonheur d'y penser. Je pouvais envisager les chances de retrouver les traces de ma charmante fugitive qui s'était si fortement emparée de mon intérêt et dont la tentative de suicide désespérée m'avait presque coûté la vie. Si elle était allée aussi loin qu'Édimbourg, et c'est ce qu'elle avait dû faire pour déjouer toute recherche, la perspective de la retrouver dans cette grande ville et dans le faible état de ma santé paraissait hasardée. Cependant, j'avais en moi une espérance cachée qui s'opposa à tout affaissement sérieux de mon esprit. Je possédais la conviction purement imaginaire, et peut-être devrais-je dire purement superstitieuse, qu'après avoir failli mourir ensemble et avoir été rappelés ensemble à la vie, nous étions sûrement destinés à partager en commun certaines joies et certains chagrins futurs. Je m'imagine que je la reverrai, fut ma dernière pensée, avant de céder à ma faiblesse et de tomber dans un paisible sommeil. Je fus transporté le soir même de l'auberge chez moi dans ma propre chambre, et cette nuit-là même, je la revis en songe. Son image m'impressionna aussi vivement que celle, si différente, de la petite Marie lorsque j'avais jadis l'habitude de la voir. La vision de l'étrangère était vêtue comme je l'avais vue sur le pont. Elle portait le même chapeau de paille de jardin à large bord. Elle me regarda comme elle avait fait lorsque je l'avais abordée à la sombre lumière du soir. Peu après, son visage s'éclaira d'un bel et divin sourire et elle murmura à mon oreille « Ami, me reconnaissez-vous ? » Je la reconnaissais assurément et pourtant c'était avec une incompréhensible arrière-pensée de doute. Je la reconnaissais dans mon rêve pour l'étrangère qui m'avait si vivement intéressée. Et néanmoins, j'étais mécontent de moi-même, comme si je me trompais. Je m'éveillai avec cette idée et je ne dormis plus de la nuit. 3 jours après, j'étais assez fort pour aller me promener avec ma mère dans la vieille et confortable voiture découverte qui avait appartenu jadis à M. Germaine. Le 4e jour, nous convînmes d'aller faire une excursion à une petite chute d'eau dans le voisinage. Ma mère ressentait une grande admiration pour cet endroit et elle avait souvent exprimé le désir d'en posséder un souvenir. Je résolus d'emporter mon album avec moi dans l'espoir de pouvoir lui être agréable en décidant une vue de sa scène favorite. En cherchant mon album, dont je ne m'étais pas servi depuis des années, je le trouvai dans un vieux bureau à moi qui était resté fermé depuis mon départ pour l'Inde. Dans mes recherches, j'ouvris un tiroir du bureau et j'y découvris une relique des anciens temps, le premier ouvrage de broderie de ma pauvre petite Marie, le pavillon vert. La vue de ce souvenir oublié ramena ma pensée vers le cottage du régisseur et me rappela Dame d'Hermodée et son inébranlable prédiction concernant Marie et moi. Je souris en me rappelant l'affirmation de la vieille femme que nulle puissance humaine ne pourrait empêcher l'union future des âmes sœurs des deux enfants. Qu'était-il advenu des songes prophétiques dans lesquels nous devions communiquer l'un avec l'autre pendant la durée de notre séparation? Les années s'étaient écoulées et dans la veille ou dans le sommeil, je n'avais rien vu de Marie. Les années s'étaient écoulées et la première vision que j'avais eue en rêve d'une femme avait été, quelques nuits auparavant, celle de l'étrangère que j'avais sauvée de la rivière. Je songeais aux diverses chances et changements de ma vie, mais sans dédain ni amertume. Le nouvel amour qui se glissait dans mon cœur m'avait adouci et humanisé. « Ah, pauvre petite Marie !» Et je baisai le pavillon vert en souvenir gracieux des jours à jamais évanouis. Nous partîmes en voiture pour la chute d'eau. La journée était admirable. Le site agreste et solitaire s'étalait dans tout son éclat et toute sa beauté. Le propriétaire y avait bâti, pour la commodité des visiteurs, un chalet en bois qui commandait l'aspect de la chute d'eau. Ma mère me conseilla d'essayer d'en faire une esquisse prise du chalet. Je fis de mon mieux pour lui plaire, mais le résultat ne me satisfit pas et j'abandonnai mon dessin avant qu'il fût à moitié terminé. Laissant donc mon album et mon crayon sur la table du chalet, je proposai à ma mère de passer le petit pont de bois qui traversait le petit cours d'eau au-dessous de la chute et de voir comment faisait le paysage contemplé de ce nouveau point de vue. Le coup d'œil de la chute, vu du bord opposé, présentait, pour un artiste amateur comme moi, encore de plus grandes difficultés que celui que nous venions de quitter. Nous revînmes donc au chalet. J'approchai le premier de la porte ouverte et je m'arrêtai sous le coup d'une découverte inattendue. Le chalet n'était plus vide comme nous l'avions laissé. Une dame, assise à la table, avec mon crayon à la main, écrivait sur mon album. Après un moment d'hésitation, je fis quelques pas vers la porte et je m'arrêtai de nouveau, éperdu d'étonnement. Je venais de reconnaître visiblement dans l'étrangère la femme qui avait tenté de se détruire en se précipitant du pont. Il n'y avait pas de doute possible, c'était le costume, c'était le remarquable visage que j'avais contemplé à la lumière du soir et dont j'avais rêvé quelques nuits auparavant. C'était la même femme que je voyais aussi distinctement que le soleil brillant sur la chute d'eau. C'était la même femme, mon crayon à la main et écrivant sur mon album. Ma mère était tout près derrière moi, elle remarqua mon trouble. « Georges, s'écria-t-elle, qu'avez-vous ? » Je lui indiquai la porte ouverte du chalet. « Eh bien, dit ma mère, que faut-il regarder ? » Ne voyez-vous pas quelqu'un assis à la table et écrivant sur mon album ?» Ma mère me regarda vivement. « Est-ce qu'il redevient malade ?» l'entendis-je se dire à elle-même. Au même moment, la femme posa le crayon sur la table et se leva lentement. Elle me contempla avec un regard triste et suppliant et leva la main pour me faire signe d'approcher. J'obéis. Mû par une volonté inconsciente, attiré vers elle par une puissance irrésistible, je montai le petit perron qui conduisait au chalet. Je m'arrêtai à quelques pas d'elle. Elle fit un pas vers moi et posa gracieusement la main sur ma poitrine. Son contact me produisit une sensation étrangement mélangée de ravissement et de terreur. Quelques instants après, elle me parla sur un ton grave et mélodieux qui se mêla à mon oreille avec le murmure éloigné de la chute d'eau, jusqu'à ce que les deux sons n'en fissent qu'un. J'entendis dans le murmure de l'eau, dans la voix, ces paroles « Souvenez-vous de moi, venez à moi !» Sa main tomba de ma poitrine, une obscurité momentanée passa comme une ombre fugitive sur le jour éclatant de la chambre. Quand la lumière reparut, je cherchai l'étrangère, elle avait disparu. La conscience du présent me revint. Je vis au dehors l'ombre grandissante qui m'annonçait que le soir arrivait. Je vis la voiture s'approcher du chalet pour nous emmener. Je sentis la main de ma mère sur mon bras et j'entendis sa voix m'interroger avec anxiété. Je pus, d'un signe, lui répondre et la supplier de ne pas s'inquiéter de moi. Mais je ne pus faire davantage. J'étais absorbé corps et âme dans l'unique désir d'examiner l'album. Si j'étais certain d'avoir vu la femme, je l'étais également de l'avoir vue, mon crayon à la main, écrire dans mon album. Je m'approchai de la table sur laquelle se trouvait ouvert l'album. J'examinai l'espace blanc laissé au bas de la page, au-dessous des lignes du premier plan de mon dessin inachevé. Ma mère, qui m'avait suivi, regarda la page également. L'écriture y était. La femme avait disparu, mais elle avait laissé derrière elle des paroles écrites, visibles pour ma mère comme pour moi, lisibles pour les yeux de ma mère comme pour les miens. Voici les mots que nous vîmes, rangés sur deux lignes, comme je les copie ici. « Quand la pleine lune brillera sur le puits de Saint-Antoine ».